Deuxième partie. Désolé. 14-15 juillet. 1. Le gyrophare à pile qu'Alec Pellet, conservé dans la console centrale de son Explorer, évoluait dans une sorte de zone grise. Sans doute qu'il n'avait plus vraiment le droit de l'utiliser, étant donné qu'il était retraité de la police d'État. Mais d'un autre côté, il faisait partie des réservistes de la police de Cap City. Alors, peut-être que si. Quoi qu'il en soit, il lui parut nécessaire, pour l'occasion, de le poser sur le tableau de bord et de le mettre en marche. Grâce au gyrophare, il effectua en un temps record le trajet entre Cap et Flint. Et il était 9h15 quand il frappa à la porte du 17 Barnum Court. Il n'y avait aucun journaliste, mais, plus haut dans la rue, il apercevait la lumière brutale des projecteurs des équipes de télé, devant une maison qu'il devinait être celle des Maitland. Apparemment, toutes les mouches à merde n'avaient pas été attirées par la conférence de presse impromptue de Howie. Il s'y attendait. Un petit homme trapu aux cheveux blonds roux ouvrit la porte. Son front se plissa, et ses lèvres se pincèrent si fort que sa bouche disparut presque entièrement. Il était prêt à envoyer au diable ce visiteur. La femme qui se tenait derrière lui était une blonde aux yeux verts, plus grande que son mari d'au moins 5 centimètres, et beaucoup plus jolie, même sans maquillage et malgré ses yeux gonflés. Elle ne pleurait pas, contrairement à quelqu'un d'autre dans une des pièces de la maison. Un enfant. Une des filles Maitland, supposa Alec.
« Monsieur et Madame Mattingly, je suis Alec Pellet. Howie Gold vous a appelé ?»«
Oui, » répondit la femme. « Entrez, Monsieur Pellet. »
Alec fit un pas en avant. Mattingly, malgré ses 20 centimètres de moins que lui, se dressa sur son chemin.
« On peut voir vos papiers d'abord, s'il vous plaît. »«
Bien sûr. »
Alec aurait pu leur montrer son permis de conduire, mais il opta pour sa carte de réserviste de la police. Il n'avait pas besoin de savoir que ses activités dans ce domaine se limitaient désormais à quelques prestations honorifiques, comme agent de sécurité dans des concerts de rock, des rodéos, des combats de catch bidon et le Monster Truck Jam, qui avait lieu 3 fois par an au Coliseum. Parfois, il arpentait également le quartier des affaires de Cap City, pour remplacer une contractuelle malade. Une leçon d'humilité pour un homme qui avait autrefois commandé une brigade de 4 inspecteurs. Mais Alex s'en fichait. Il aimait être dehors, sous le soleil. En outre, il était une sorte de spécialiste de la Bible. Et on peut lire dans le Protévangile de Jacques, chapitre 4, verset 6, « Dieu s'oppose aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. » « Merci, » dit M. Mattingly, en s'écartant tout en tendant la main à Alec. « Tom Mattingly. » Alec s'attendait à une poignée de mains puissantes. Il ne fut pas déçu.
« Je ne suis pas d'un naturel soupçonneux, et nous vivons dans un quartier tranquille. Mais j'ai expliqué à Jamie qu'on devait être ultra prudent pendant que Sarah et Grace sont sous notre toit. Beaucoup de gens sont en colère contre Coach T, et ce n'est qu'un début, croyez-moi. Une fois que tout le monde saura ce qu'il a fait, ça va être bien pire. Pas fâché que vous veniez nous en débarrasser. »
Jamie Mattingly jeta un regard de reproche à son mari.
« Quoi qu'ait fait leur père, si c'est vraiment lui, ces pauvres petites n'y sont pour rien. »
Et s'adressant à Alec,
« Elles sont anéanties, surtout grissies. Elles ont vu leur père emmener menottes au poignet. »
« Ah, bon sang! Attends un peu qu'elles sachent pourquoi, » dit Tom. « Et elles le sauront forcément. De nos jours, les gamins savent tout. Saleté d'Internet, saleté de Facebook et de Twitter. »
Il secoua la tête.
« Jamie a raison. On est innocent tant qu'on n'a pas été déclaré coupable. C'est la loi dans ce pays. » Mais quand la police arrête quelqu'un en public de cette façon,
il soupira.
Vous voulez voir quelque chose, Monsieur Pellet? Jamie a fait du thé glacé avant le match.
Merci, mais il vaut mieux que je ramène les filles chez elles. Leur mère doit les attendre.
Ramener les fillettes n'était que sa première tâche ce soir. Howie lui avait débité une liste de choses à faire, avec la rapidité d'une mitraillette avant de pénétrer dans la lumière des projecteurs de télé. Sa mission numéro 2 l'obligeait à retourner dardard à Cap City, tout en passant des coups de téléphone, pour réclamer des renvois d'ascenseur. C'était bon de reprendre le collier. Bien mieux que de faire des marques à la craie sur les pneus des voitures garées dans Midland Street. Mais cette partie du programme s'annonçait difficile. Les filles qu'Alec venait chercher se trouvaient dans une pièce qui, à en juger par les poissons empaillés qui bondissaient sur les murs en pin noueux, devait être l'antre de Tom Mattingly. Sur l'immense téléviseur à écran plat, Bob l'éponge gambadait à Bikini Bottom, sans le son. Recroquevillée sur le canapé, elle portait encore leurs t-shirts et leurs casquettes des Golden Dragons. Et sur le visage un maquillage noir et doré, sans doute appliqué par leur mère quelques heures plus tôt, avant que le monde jusqu'alors bienveillant se dresse sur ses pattes arrière pour arracher à coups de dents un morceau de leur famille. Mais le maquillage de la plus jeune avait été presque entièrement effacé par les larmes. Découvrant un inconnu dans l'encadrement de la porte, l'aînée serra contre elle sa petite sœur secouée de sanglots. Si Alec n'avait pas d'enfants, il les aimait bien cependant, et le geste instinctif de Sarah lui brisa le cœur. Une enfant qui protège une autre enfant. Il se planta au centre de la pièce, main jointe devant lui.
« Sarah, je suis un ami de Howie Gold. Tu le connais, hein ?»«
Oui, mon père va bien. »
Sa voix n'était qu'un murmure, enroué par son chagrin. Grace n'osait pas regarder Alec. Elle avait enfoui son visage dans le cou de sa grande sœur.
« Oui, il m'a chargé de vous ramener chez vous. »
Ce n'était pas tout à fait exact, mais ce n'était pas le moment d'ergoter.
« Il est à la maison ?»«
Non, mais votre maman est là. »«
On pourrait y aller à pied, »
dit Sarah tout bas.
« C'est au bout de la rue. Je tiendrai Grécy par la main. »
Celle-ci, toujours blottie contre sa sœur, fit non de la tête.
« Pas à la nuit tombée, ma chérie, » dit Jimmy Mattingly.
« Et surtout pas ce soir, » pensa Alec.
« Ni les autres soirs, ni même les autres jours. »
« Venez, les filles, » dit Tom avec une bonne humeur factice et assez effrayante. « Je vous accompagne dehors. »
Sur le perron, dans la lumière de la terrasse, Jimmy Mattingly paraissait plus pâle que jamais. En l'espace de 3 petites heures, la mère au foyer qui s'occupe de ses enfants était devenue une malade cancéreuse.
« C'est affreux, » dit-elle. « On dirait que le monde entier est sans dessus-dessous. Dieu merci, notre fille est loin d'ici, dans un camp de vacances. Si nous sommes allés au match ce soir, c'est uniquement parce que Sarah est la meilleure copine de Maureen. »
En entendant le prénom de son amie, Sarah se mit à pleurer elle aussi, ce qui eut pour effet de raviver les larmes de sa sœur. Alec remercia les Mattingly et conduisit les filles vers son explorer. Elle marchait lentement, tête baissée, en se tenant par la main, comme des enfants dans un conte de fées. Il avait ôté toutes les cochonneries qui encombraient habituellement le siège avant, et les deux fillettes s'y assirent collées l'une contre l'autre. De nouveau, Grace enfouit son visage dans le cou de sa sœur. Alec ne prit pas la peine d'attacher leur ceinture. Il n'y avait que 300 mètres jusqu'au cercle lumineux qui éclairait le trottoir et la pelouse de Maitland. Il ne restait plus qu'une seule équipe de télé devant la maison. 4 ou 5 types de la filiale locale d'ABC qui buvaient du café dans des gobelets en polystyrène, sous la parabole de leur camionnette. Quand ils virent l'explorer pénétrer dans l'allée des Maitland, ils s'agitèrent. Alec commanda l'ouverture de sa vitre et s'adressa à eux de sa plus belle voix de policier qui vous ordonne de vous arrêter et de mettre les mains en l'air.
« Interdiction de filmer les enfants !»
Les vautours hésitèrent quelques secondes, mais pas plus. Interdire au sensu des médias de filmer, c'était comme interdire à des moustiques de piquer. Alec se souvint d'un temps où c'était différent, jadis, dans l'Antiquité, quand un gentleman tenait la porte aux dames. Mais cette époque était révolue. L'unique reporter qui avait décidé de demeurer dans Barnum Court, un hispanique qu'Alec reconnaissait vaguement, il aimait les nœuds papillons et faisait la météo le week-end, s'emparait déjà de son micro et vérifiait la batterie fixée à sa ceinture. La porte de la maison de Maitland s'ouvrit. Voyant sa mère sur le seuil, Sarah commença à descendre de voiture.
« Attends un peu, Sarah !»
dit Alec en tendant le bras derrière lui. Il avait pris 2 serviettes dans la salle de bain avant de partir de chez lui, et il entendit une à chacune.
« Mettez-vous ça sur la tête !» Il sourit, comme des bandits dans un film. « Ok. »
Grace le regarda d'un air hébété, mais Sarah comprit, et elle drapa une des serviettes sur la tête de sa sœur. Alec rabattit le tissu éponge sur la bouche et le nez de Grace, pendant que Sarah en faisait autant de son côté. Elles descendirent de voiture et s'empressèrent de traverser la lumière crue du projecteur, en tenant les serviettes sous leur menton.
Elles ne ressemblaient pas à des bandits, plutôt à des bédouines naines prises dans une tempête de sable. Elles ressemblaient également aux gamines les plus tristes, les plus désespérées qu'il ait jamais vues. Marcy Maitland n'avait pas de serviette pour masquer son visage, et c'est sur elle que se focalisa le caméraman.
« Madame Maitland !»
s'écria Nœud Pape.
« Avez-vous une déclaration à faire au sujet de l'arrestation de votre mari? Lui avez-vous parlé ?»
Alex se planta devant la caméra et se déplaça agilement quand le caméraman tenta de le contourner. Il pointa le doigt sur Nœud Pape.
« Si vous posez un seul pied sur la pelouse, Hermano, vous poserez vos questions débiles du fond de votre cellule. »
Nœud Pape lui jeta un regard offusqué.
« Qui est-ce que vous appelez Hermano? Je fais mon travail !»
Harceler une femme bouleversée et deux pauvres gamines. Joli travail.
Le sien était terminé, ici du moins. Madame Maitland avait récupéré et fait rentrer ses filles. Elles étaient à l'abri maintenant, autant qu'elles pouvaient l'être en tout cas. Mais il avait le sentiment que ces deux fillettes ne se sentiraient plus en sécurité nulle part avant longtemps. Nœud Pape trottina sur le trottoir, en faisant signe au caméraman de suivre Alec qui regagnait sa voiture.
« Qui êtes-vous, monsieur ? Comment vous appelez-vous ? » ?
« Machin chose, pour vous servir. Il n'y a rien d'intéressant ici. Alors laissez ces gens tranquilles, ils n'ont rien à voir dans tout ça. »
Il aurait pu tout aussi bien parler chinois. Déjà, les voisins étaient ressortis sur leur pelouse, impatients d'assister au nouvel épisode du drame de Barnum Court. Alec quitta l'allée en marche arrière et prit la direction de l'ouest, en sachant que le caméraman allait filmer sa plaque d'immatriculation. Bientôt, il saurait qui il était et pour qui il travaillait. Ce n'était pas le scoop du siècle, mais une cerise sur le gâteau qu'il servirait aux téléspectateurs des infos de 23 heures. Il songea brièvement à ce qui se passait dans cette maison. La mère sonnée et terrifiée, essayant de réconforter deux fillettes sonnées et terrifiées qui portaient encore leur maquillage de jour de match.
« C'est lui l'assassin ?»
avait-il demandé à Howie quand celui-ci l'avait appelé pour lui faire un résumé de la situation. Cela importait peu, en fait. Le travail, c'était le travail. Mais il aimait bien savoir.
« À votre avis ?»«
Je ne sais pas quoi penser, » avait répondu Howie. « Mais je sais ce que vous allez faire dès que vous aurez déposé Sarah et Grace chez elle. »
Lorsqu'il vit le premier panneau indiquant l'autoroute, Alec appela le Sheraton de Cap City et demanda à parler au concierge, avec lequel il avait déjà traité par le passé. Pas étonnant, il avait traité avec presque tous. 2. Bill Samuels et Ralph étaient assis dans le bureau de ce dernier, cravate desserrée, col de chemise ouvert. Au dehors, les projecteurs des équipes de télévision s'étaient éteints 10 minutes plus tôt. Les 4 touches du téléphone fixe de Ralph étaient allumées, mais Sandy McGill gérait les appels, et ceci jusqu'à ce que Gary Malden arrive à 23 heures. Pour l'instant, sa tâche était simple, bien que répétitive.
« La police de Flint City n'a aucun commentaire à faire pour le moment. L'enquête est en cours, » déclarait-elle.
Pendant ce temps, Ralph n'était pas resté inactif avec son portable. Il le remit dans la poche de sa veste. Yunel Sablo est parti voir ses beaux-parents dans le Nord, avec sa femme. Il dit qu'il a déjà annulé 2 fois et qu'il n'a plus le choix s'il ne veut pas dormir dans le canapé pendant 1 semaine. Très inconfortable, paraît-il. Il sera de retour demain et, bien entendu, il assistera à la lecture de l'acte d'accusation.
« On va envoyer quelqu'un d'autre au Sheraton, alors ?» dit Samuels. « Dommage que Jack Hoskins soit en vacances. »«
Non, ce n'est pas dommage, » répondit Ralph, ce qui fait rire le procureur.
« Vous marquez 1 point. Notre ami Jackie n'est peut-être pas le plus mauvais inspecteur de l'État, mais j'avoue qu'il n'en est pas loin. Vous connaissez tous les inspecteurs de la police de Cap City. Appelez-les jusqu'à ce que vous tombiez sur un flic vivant. »
Ralph secoua la tête.
« Il faut que ce soit Sablo. Il connaît le dossier et il est notre lien avec la police d'État. On ne peut pas prendre le risque de se la mettre à dos, compte tenu de la manière dont les choses se sont passées ce soir. C'est-à-dire, différemment de ce qu'on croyait. »
C'était l'euphémisme de l'année, voire du siècle. L'étonnement le plus total de Terry et son apparente absence de sentiment de culpabilité avaient ébranlé Ralph, davantage même que son alibi impossible. Se pouvait-il que le monstre qui vivait en lui et non seulement tuer cet enfant, mais effacer également de sa mémoire tout ce qu'il avait fait. Et ensuite, Avait-il comblé les vides avec les détails d'une fausse histoire de colloque entre profs à Cap City?
Si vous n'envoyez pas quelqu'un rapidement, ce type qui travaille pour Gold...
Alec Pelé?
Oui, voilà. Il va mettre la main sur les bandes de surveillance de l'hôtel avant nous, en supposant qu'il les ait conservées, évidemment.
Il garde tout pendant un mois.
Vous en êtes sûr?
Oui. Et Pelé n'a pas de mandat.
Oh, allons. Vous pensez qu'il en aura besoin?
En vérité, Ralph ne le pensait pas. Alec Pelé avait été inspecteur de police pendant plus de 20 ans. Il avait eu le temps d'établir de nombreux contacts, et maintenant qu'il travaillait pour un avocat de renom comme Howard Gold, nul doute qu'il prenait soin de les entretenir.
« Votre idée de l'arrêter en public ressemble à une mauvaise idée, subitement, » dit Samuels.
Ralph le foudroya du regard. « Une mauvaise idée que vous avez approuvée. »
« Sans grand enthousiasme. Jouons franc jeu, puisque nous sommes entre nous, maintenant que tous les autres sont partis. À vous entendre, c'était du tout cuit. »
« Exactement. Et je le pense encore.
Et puisque nous sommes entre nous, comme vous dites, permettez-moi de vous rappeler que vous ne vous êtes pas contenté d'approuver mon idée. Vous vous présentez aux élections à l'automne, et une arrestation dans une affaire très médiatisée ne vous ferait pas de tort.
Cela ne m'a jamais effleuré. »
Soit, ça ne vous a jamais effleuré. Vous avez simplement suivi le mouvement, mais si vous pensez que la décision de l'arrêter pendant le match était motivée uniquement par mon fils, vous devriez regarder un peu mieux les photos de la scène de crime et repenser au rapport de Felicity Ackerman. Les types comme ça ne s'arrêtent pas après leur premier crime.
Le rouge montait aux joues de Samuels.
Vous croyez que je ne l'ai pas fait? Nom de Dieu, Ralph! C'est moi qui l'ai traité de cannibale, devant la caméra!
Ralph passa la main sur sa joue. Elle était rugueuse. Se disputer pour savoir qui a dit quoi et qui a fait quoi, ça ne sert à rien. N'oublions pas une chose. Peu importe qui s'empare de ces bandes de surveillance. Si Pelé arrive avant nous, il ne pourra pas les prendre sous son bras et partir avec, si, ni les effacer.
Exact,
admit Samuels. Et de toute façon, elles ne peuvent pas être déterminantes. Même si on aperçoit sur l'enregistrement un homme qui ressemble à Maitland,
tout juste, prouver que c'est lui à partir de quelques images furtives, ce sera une autre paire de manches. Surtout face à tous nos témoins oculaires et aux empreintes.
Ralph se leva et alla ouvrir la porte. Cet enregistrement n'est peut-être pas l'élément le plus important. Il faut que je passe un coup de fil. J'aurais dû le faire plus tôt. Samuels le suivit jusqu'à l'accueil. Sandy McGill était au téléphone. Ralph s'approcha d'elle et fit mine de se trancher la gorge avec son pouce. Elle raccrocha aussitôt et le regarda d'un air interrogateur.
« Everett Rand Hill, » dit Ralph. « Président du département d'anglais au lycée. Trouvez son numéro et passez-le-moi. »
« Pas besoin de chercher son numéro. Je l'ai déjà, » répondit Sandy. « Il a appelé 2 fois pour demander à parler à l'inspecteur qui dirige l'enquête. »
Je lui ai répondu de faire la queue comme tout le monde.
La standardiste prit une liasse de messages et les agita sous le nez de Ralph.
J'allais justement les déposer sur votre bureau pour demain.
C'est dimanche, je sais, mais j'ai dit à ces gens que vous seriez certainement là.
Parlant très lentement, les yeux fixés sur le sol pour ne pas croiser le regard de l'homme qui se tenait à côté de lui, Bill Samuels dit
« Rand Hill a appelé 2 fois. Je n'aime pas ça. » Je n'aime pas ça du tout.